Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous vous rappelez que lorsque nous avons traité des péchés contre le Saint-Esprit, nous avons commencé à aborder la question de l'aveuglement de l'Esprit. Mais cette question est tellement importante que saint Thomas d'Aquin y revient, et même il la développe, en nous montrant ce qu'est la forme atténuée de l'aveuglement, à savoir l'hébétude. Hébétude, le nom qui vient de hébété, avec un H, et qui signifie émoussé. Je ne reviendrai donc pas sur l'aveuglement. Vous avez compris ce dont il s'agit. C'est une impossibilité qui vient de ce que le regard s'est tellement porté sur les choses du monde, qu'il devient inapte à comprendre les choses de Dieu. Cet aveuglement, je vous ai dit qu'on le trouve, par exemple, chez les modernistes, et c'est le seul moyen de comprendre comment des papes, des évêques, ont pu tomber à ce point de devenir, pour le pape, une espèce de délégué syndical de gauche, et pour les évêques, des sortes de marionnettes dans la main du mondialisme. Ce sont, comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile, des aveugles qui guident des aveugles, avec ceci qu'on ne s'aperçoit pas qu'ils sont aveugles, disons qu'on ne s'en aperçoit pas dès le début. C'est d'autant plus un problème qu'on s'est mis dans la tête qu'il n'était pas possible qu'un pape tombe dans l'aveuglement. On se pose la question de savoir si un pape peut devenir hérétique ou non. Je n'ai encore jamais vu la question « Un pape peut-il tomber dans l'aveuglement ?» C'est-à-dire ne plus rien comprendre aux choses de Dieu. Mais il existe une forme atténuée de l'aveuglement qui s'appelle l'hébétude. Pour nous le faire comprendre, saint Thomas d'Aquin compare avec l'acuité visuelle. L'acuité, dit-il, permet de pénétrer ce qu'il y a de plus petit et de plus intérieur dans l'objet. Un sens hébété ou émoussé, parce que hébété veut dire émoussé. Un sens hébété ou émoussé, au contraire, ne perçoit les objets sensibles que s'ils sont proches et de grande taille. Il n'a pas une vue perçante. Maintenant, il compare avec l'intelligence, et surtout avec l'intelligence des choses de Dieu. Celui qui a un sens aigu, donc l'acuité, dès qu'il a perçu la chose, par la révélation, il la pénètre, il en comprend les propriétés, il voit quels sont ses effets, il en comprend la nature, il en voit les moindres conditions. Notamment, il voit les rapports de cause à effet, cause et conséquence. Au contraire, toujours en matière intellectuelle, un esprit hébété a une certaine débilité, une certaine faiblesse dans la considération des biens spirituels. Alors que l'aveuglement de l'esprit implique une totale privation de la considération des choses de Dieu, l'hébétude fait qu'on voit, mais fort mal, et qu'on ne comprend pas. L'une et l'autre s'opposent au don d'intelligence par lequel on connaît les biens spirituels dès qu'on les appréhende, dès qu'on en a entendu parler, on va jusqu'au fond des choses. Et ce don d'intelligence par lequel on pénètre finement dans ce qu'il y a de plus intime en Dieu. L'aveuglement et l'hébétude peuvent être un châtiment de Dieu, mais c'est un péché dès que c'est volontaire ou même lorsque c'est indirectement volontaire. Par exemple, dit saint Thomas, chez celui qui est attaché au bien charnel et qui n'éprouve qu'ennui ou négligence à scruter finement les réalités spirituelles. Celui qui, surtout dans les circonstances très difficiles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, n'est pas attentif à cultiver l'intelligence des choses de Dieu et donc l'acuité spirituelle dans la perception du mystère, celui-ci est coupable dès le début de sa négligence, parce que les causes vont suivre. Et la cause, ça va être au moins l'hébétude, voire même la cécité, l'aveuglement. Il faut faire bien attention, mes bien chers frères, que dès qu'on tombe dans l'aveuglement ou même dans l'hébétude, on ne se rend pas compte de la chose. C'est comme l'alpiniste qui, dans un froid intense, à cause de la fatigue, sous prétexte de se reposer, se couche dans la neige. Il devrait savoir que la neige va l'engourdir, que plus le temps va passer, plus il lui sera impossible de réagir, et qu'il va mourir sans s'en rendre compte. L'alpiniste qui ne serait pas attentif à cela serait gravement coupable avant même d'être mort. C'est terrible. Les aveugles et les hébétés sont les derniers à se rendre compte de leur aveuglement et de leur hébétude. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'on ne voit pas quand on ne sait pas qu'il y a quelque chose à voir, ou quand on ne sait plus qu'il y a quelque chose à voir. Eh bien, si l'aveuglement explique la chute du pape, des évêques, l'hébétude, elle, est un vice qui concerne particulièrement ceux qui ont la foi, qui ont su voir dans la crise actuelle et les traditionalistes. Et comme je vous le disais, dès qu'on est tombé dans l'hébétude, on ne se rend plus compte de ce qu'on ne voit plus, et cela d'autant plus qu'on continue à voir les grosses choses. Et c'est pour cela que ceux qui avertissent ne sont pas entendus. Parce que celui qui tombe dans l'hébétude lui rétorque « Mais non, je n'ai pas perdu la foi, regarde, je sais encore cela, j'ai bien vu quelle est la crise dans l'Église. » Je vais vous donner des exemples, non pas pour condamner qui que ce soit, mais parce qu'il faut que vous compreniez. Un évêque de la Fraternité Saint-Pédis me disait que nous avions besoin de Rome pour renforcer les mariages célébrés par les prêtres de la fraternité. Pourquoi les renforcer? Parce que, m'expliquait-il, nos mariages étaient faibles du fait qu'ils n'étaient pas reconnus par Rome, et il était très facile aux traditionalistes malhonnêtes de demander la nullité à Rome. Tandis que, à partir du moment où les mariages seraient reconnus, ils ne pourraient plus jouer ce sale petit jeu. Mais je lui ai répondu « Mais monseigneur, c'est exactement l'inverse. Ce sont nos mariages qui sont solides et ceux qui sont célébrés dans l'Église moderne qui sont fragiles. Le code moderniste est particulièrement scandaleux pour avoir inventé des prétendues nullités de mariage afin de pouvoir libérer les époux et qu'ils puissent se remarier. C'est pas moi qui le dis, c'est monseigneur Valdrini, doyen de la faculté de droit à l'Institut catholique de Paris. » Qu'il y ait des gens malhonnêtes, c'est possible, mais ce n'est pas en faisant reconnaître les mariages traditionnels par ceux qui ne respectent plus le mariage. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à les renforcer. Alors comment on fait maintenant avec Amoris Laetitia lorsque le pape dit que même dans le concubinage il y a de l'amour et qu'après tout, concubien ou marié, du moment que c'est fait avec bonne volonté, cela a la même valeur? Eh bien, cet évêque n'était pas aveugle. Il voyait, il voit toujours bien les grosses erreurs des modernistes. Il a écrit même un excellent livre sur la fausse théologie de Benoît XVI. Mais il a fait là preuve d'hébétude. Il ne voit plus le lien entre les choses. Il ne voit plus le lien entre autorité et vérité. Et donc, sous prétexte de respecter l'autorité ou les détenteurs de l'autorité, eh bien, on finit par ne plus voir qu'on quitte la vérité. Il ne voit plus qu'à fréquenter des modernistes, on finit par se faire influencer par eux. Saint Jean Bosco, lui, sur ce point, avait une grande acuité spirituelle. Il disait aux jeunes, « Méfiez-vous des mauvais camarades et même des camarades qui, sans être vraiment mauvais, ne sont pas bons. Cherchez les bons camarades, disait-il, fuyez les mauvais. Quant à ceux qui ne sont ni bons ni mauvais, n'ayez pas de rapports avec eux. » C'est une des choses qu'il répétait très souvent et qu'il a écrite dans ses conseils aux jeunes. Celui qui ne se méfie pas des fréquentations est déjà dans les bêtudes. De même, pourquoi le concile a-t-il été reçu si facilement dans l'Église ? Parce que les prêtres, avant le concile, étaient déjà dans les bêtudes. Ils avaient la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en la très sainte Vierge, mais ils ne croyaient plus dans l'efficacité des moyens que nous donne l'Église et que Jésus-Christ a donné à son Église pour christianiser le monde. Ils n'avaient plus confiance dans l'efficacité du catéchisme traditionnel. Ils n'avaient en réalité plus confiance dans la puissance de la croix et ils n'avaient pas la foi dans la puissance de la grâce. Alors ils se sont découragés, ils ont cherché des choses nouvelles, et puis dans les choses nouvelles, eh bien évidemment, ils ne cherchaient plus la vigueur de la foi, c'est comme ça que tout est tombé. La même chose pour la liturgie. Ils ne vivaient plus de l'intime de la liturgie. Enfin, pas tous, heureusement, mais beaucoup. Et donc ils ne savaient plus en nourrir les âmes. Quand ils ont supprimé les prières au bas de l'autel, le dernier évangile, ce n'était pas de l'aveuglement dans la foi, mais c'était un début d'hébétude. Quand ils ont retourné les autels, qu'ils ont dit le canon à voix haute, puis en français, ils n'avaient pas perdu la foi, mais ils avançaient dans l'hébétude, c'est-à-dire qu'ils regardaient leurs fidèles plus que Dieu. Pourquoi je vous dis tout cela ? Ce n'est pas pour remuer le passé, c'est parce que cela est terriblement présent. Mais comme je ne veux pas faire des sermons trop longs, je commence par bien vous montrer ce qu'est l'hébétude et comment temps et temps sont tombés dedans. Après ça, je vais vous montrer à quel point nous-mêmes, vous tous qui m'écoutez, nous ne sommes pas indemnes ou nous n'avons pas été indemnes d'hébétude. Et ce vice nous tente. C'est le vice que le démon cultive pour faire tomber les traditionalistes. Je reviens sur les exemples pour que vous compreniez bien. Pourquoi avons-nous perdu l'Indochine et l'Algérie ? Parce que nous n'avons pas, dans ces guerres contre le communisme, défendu la chrétienté. Peut-être cela vous étonnera-t-il que je revienne sur l'Indochine et l'Algérie. Ne croyez pas que je remue des souvenirs de jeunesse pour le plaisir. C'est exactement l'inverse. Dans ma jeunesse, mes parents m'ont rendu attentif au drame qui se jouait. Je leur ai une grande reconnaissance de nous avoir prémunis contre l'hébétude et contre donc l'aveuglement. Des livres ont été écrits là-dessus. Le colonel Château-Jobert a écrit un livre, Feux et lumières sur ma trace, pour montrer comment, ayant suivi les exercices de Saint-Ignace, tout d'un coup, des écailles lui sont tombées des yeux et il s'est rendu compte que la lutte qu'il fallait mener était une lutte militaire, certes, mais chrétienne avant tout. Vous avez le livre de Claude Mouton, La contre-révolution en Algérie, le combat de Robert Martel. Robert Martel a été le seul à voir que l'enjeu, c'était les âmes, et que par conséquent, la lutte qui était menée devait être menée avec la foi, inspirée par la foi, nourrie par la foi. Ne dites pas, mes bien chers frères, que c'est de la naïveté. Il y eut une œuvre extraordinaire, faite par les sas, faite par des bons officiers, pour conquérir le cœur des populations, tant en Indochine qu'en Algérie, pour créer une amitié, une fraternité. Mais on ne concevait plus de faire une fraternité qui repose sur la foi en Dieu et donc la charité qui repose sur la foi en Dieu. On ne le concevait plus parce que les francs-maçons de Louis-Philippe au moment de la conquête de l'Algérie et de Napoléon III après avaient interdit qu'on convertisse les habitants d'Algérie, qui étaient plus ou moins musulmans. Et puis on s'est accommodé de cela. Et puis on n'a pas vu, on n'a pas voulu, on n'a pas voulu voir. Enfin, je ne jette la pierre à personne. Mais c'est un fait que les Européens vivaient en très bons chrétiens, mais qu'il n'y avait pas de missionnaires pour convertir les musulmans. Donc ne dites pas que c'est irréaliste, parce que ce travail de conquête des cœurs est tombé. Pourquoi est-il tombé? Parce qu'il y manquait ce qui fait tenir puissamment. Je crois vous avoir déjà raconté l'histoire de Le Pichon dans son livre « Lettres d'Indochine ». Je ne dis pas que ces livres sont nécessaires à lire, mais ce qui est certain, c'est que nous devons toujours être préoccupés de chercher ce qui va éclairer notre foi, ce qui va éclairer notre combat chrétien, ce qui va donner du sens et de la profondeur chrétienne à notre combat. Et quand on tombe sur un livre comme celui de Le Pichon, on subodore qu'il va y avoir des belles leçons. Et c'est pour ça que j'ai lu ce livre. Il y en a d'autres qu'on aurait pu lire. Il est encore jeune, il a une trentaine d'années. Il se lie d'amitié avec un chef Moy, qui est un petit peu plus jeune que lui, sur les hauts plateaux. Le chef lui dit « Parle-moi de ton Dieu ». Et Le Pichon lui répond « Oh, c'est trop compliqué, ça tu peux pas savoir, trop compliqué. » Un peu plus tard, le chef lui refait la demande « Parle-moi de ton Dieu. » Et Le Pichon lui dit « Non, c'est trop compliqué, c'est pas possible. » Finalement, le chef Moy est assassiné à cause de son amitié avec le Français. Et Le Pichon se fait la remarque « Dans notre amitié, tout ce que je lui ai demandé, il me l'a donné. Ce qu'il m'a demandé, je le lui ai refusé. » Et ça va être le début d'une crise de conscience pour Le Pichon, qui va se résoudre 2 ans après seulement, lorsque lui-même est atteint par une flèche empoisonnée et qu'il réclame que le prêtre vienne lui donner les sacrements avant de mourir. Le prêtre ne viendra pas parce qu'il était tout en haut de la montagne, mais il finira par être sauvé in extremis. Et là, il se dit « Tu n'as pas voulu mourir en païen, mais tu n'as rien fait pour vivre en chrétien. » Et c'est là qu'il entre dans une église et il écrit à ses enfants « Dès que je fus entré dans l'église, sachant que je trouverais la réponse, j'ai eu la réponse immédiatement, j'ai su que désormais je participerai à la messe tous les jours. Je remue le fer dans la plaie, là, puisque vous ne pouvez pas participer à la messe tous les jours, mes bien chers frères. Mais vous pouvez y participer spirituellement. La communion spirituelle, la messe spirituelle. Bien, il faut que j'avance. Vous avez un exemple en Indochine de guerre de croisade, on peut dire que c'est une croisade chrétienne, contre le communisme démoniaque. C'est le fils de la rizière par le colonel Leroy qui a suscité des brigades de chrétienté. Tout le delta qui lui était soumis a été purifié de toute présence communiste. Et dans ces brigades de chrétienté, il y avait très peu de blancs, c'était tous des Indochinois qui y participaient. Un autre exemple, le Front National. Pourquoi est-il tombé si bas et nous a-t-il tant déçus? Il est tombé si bas parce qu'il n'était pas chrétien. Un jour, un membre du Front National que j'estimais beaucoup, Le Pen lui dit qu'il cherche un successeur, et ce monsieur lui répond « Vous cherchez quelqu'un pour vous succéder, mais c'est en réalité quelqu'un à suivre qu'il vous faut. Vous n'avez toujours pas décidé de suivre ni Sainte-Jeanne d'Arc, ni le Sacré-Cœur. » Et pourquoi avons-nous été déçus par le Front National? Parce que nous aussi, nous n'avons pas eu assez d'esprit de foi pour voir ce qu'il en était et pour admettre que des moyens purement naturels ne peuvent pas réussir quand il s'agit de lutter contre le démon. Alors je termine par une mise en garde, mes bien chers frères, qui n'est pas de moi, mais de Saint Grégoire le Grand. L'Évangile, frères bien-aimés, nous avertit de réfléchir attentivement, c'est à propos de la parabole des talents, celui qui en a cinq, qui en a deux, qui en a un, nous avertit de réfléchir attentivement, afin que nous, qui avons reçu en ce monde plus que les autres, nous ne soyons pas jugés plus sévèrement par l'auteur du monde. Avec la largesse des dons grandit l'exigence des comptes. Chacun doit donc prendre motif du don qu'il reçoit pour être d'autant plus humble et se dévouer d'autant plus promptement au service de Dieu qu'elle s'aperçoit à devoir rendre compte de plus d'obligations. J'espère que vous avez compris, mes bien chers frères, que l'hébétude est un réel danger pour vous. Et la prochaine fois, dans le sermon, je vous indiquerai les moyens pour échapper à l'hébétude et pour en sortir si vous vous rendez compte que vous avez déjà mis le pied dedans. Vive le Christ roi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.